Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux systèmes à deux états et à la limite des grands nombres. Donc en physique statistique, les systèmes à deux états sont assez fréquents. À l'échelle du module, nous verrons quatre situations de systèmes à deux états. Nous verrons les problèmes de fluctuation de densité de gaz qui sont représentés par la répartition d'un gaz entre deux compartiments. Nous verrons la question de la marche aléatoire pour la diffusion de la matière. Nous verrons les problèmes de systèmes magnétiques. Les systèmes magnétiques sont constitués de spin. Le spin est une propriété quantique, donc qui est quantifiée. Et il se trouve que dans sa version la plus simple, le spin ne peut prendre que deux valeurs, d'où le système à deux états. Et nous verrons enfin les problématiques de macromolécules pour leur distribution spatiale. Et les macromolécules seront vues en première approximation comme des petits bâtonnets. Chaque monomère ou groupe de monomères représente un bâtonnet. Et la distribution de ces bâtonnets dans l'espace sera peut-être vue comme un système à deux états sur chaque direction. L'objet de l'exercice va donc être de traiter sur un plan théorique les systèmes à deux états. Donc on représente un système à deux états comme deux types de configurations possibles, des configurations de type 1, des configurations de type 2. L'état 1 peut être trouvé avec une certaine probabilité lorsqu'on mène une expérience, probabilité P. L'état 2 avec la probabilité complémentaire, donc on va l'appeler Q et Q vaut 1 moins P. Et donc lorsqu'on mène des expériences et qu'on mesure l'état, on mesure soit 1, soit 2. On va mener grand N expériences. On va mesurer l'état de façon répétée. Donc parfois on trouve 1, parfois on trouve 2. Le nombre de fois où on a trouvé 1, on va appeler ça petit n. Et donc de façon complémentaire, le nombre de fois où on a trouvé 2, on appelle ça grand N moins petit n. Et donc les questions qui vont se poser dans un premier temps, c'est comment se distribue de façon statistique petit n. Et ensuite, on essaiera de déterminer quelle est la moyenne de petit n. Alors pour rappel, et nous déterminerons également la variance de petit n va permettre d'optifier les fluctuations. La variance est définie comme la moyenne de n au carré moins la moyenne de n au carré. Alors commençons par la distribution de probabilité. Donc on va faire des tirages indépendants les uns des autres. À chaque fois que je tire une situation, j'ai une probabilité P de trouver un état 1, une probabilité Q de trouver un état 2. Donc après un total de n situations, la probabilité d'avoir rencontré petit n fois l'état 1 et grand n moins petit n fois l'état 2, ça va être la probabilité de l'état 1 à la puissance petit n, la probabilité de l'état 2 à la puissance grand n moins petit n, et puis ensuite il faut dénombrer le nombre de façons dont on peut choisir petit n parmi grand n, donc un facteur binomial qui est... Donc cette loi est connue comme la loi binomiale. Alors pour déterminer la moyenne de la loi binomiale, le sujet de l'exercice vous suggère une approche qui consiste à considérer une dérivée d'une quantité. Alors ce que vous suggère l'exercice, c'est de regarder la quantité qui est la somme de 0 à grand n de p de n. Cette quantité, c'est une fonction de p et de q. Donc à ce stade, on va considérer que p et q sont deux variables indépendantes. On oublie le fait qu'il y ait une relation entre p et q. L'expression complète de la fonction f, c'est... Ce qui est suggéré dans l'exercice, c'est de dériver cette fonction par rapport à p. Donc cette dérivée doit s'entendre à q constant. Donc si je dérive f par rapport à p à q constant, on obtient... Donc cette dérivée aboutit à quelque chose qui ressemble beaucoup à la moyenne de petit n, à un facteur p près. Si je multiplie cette formule par p, j'obtiens la moyenne de n. Autrement dit, c'est égal à la moyenne de n divisé par p. Il se trouve que la fonction f, j'ai une autre façon d'en calculer la dérivée parce que j'en connais une autre expression. En effet, vous reconnaissez en haut l'expression d'une somme binomiale pour laquelle le résultat est déjà connu, c'est p plus q à la puissance grand n. Et donc ça, c'est également facile à dériver. À partir de là, vous obtenez la relation suivante pour la moyenne de n. À présent, on peut tirer parti du fait que P et Q sont des probabilités complémentaires, donc leur somme vaut 1. Et par conséquent, le dernier terme ici vaut 1. Et donc, on obtient le résultat final. Donc la moyenne de N est égale à N. Donc on s'intéresse à présent à la variance, et ce qui est suggéré dans l'exercice, c'est de procéder avec une approche similaire. En fait, on va dériver la fonction F une deuxième fois. Donc on va faire la dérivée seconde de F par rapport à P. Et cette fois-ci, on obtient quelque chose qui ressemble beaucoup à la moyenne de n fois n moins 1 à un facteur p carré près. Et n fois n moins 1, c'est aussi n carré moins n. Donc on obtient la moyenne de n carré moins la moyenne de n sur p carré. De la même manière, on sait faire le calcul de la dérivée seconde d'une autre façon, à partir de l'expression p plus q à la puissance n. D'ores et déjà, on peut tenir compte du fait que p plus q vaut 1, et puis on obtient du coup une expression pour la moyenne de n carré. On identifie que le n2p2, ce n'est autre que le carré de la moyenne, et par conséquent, on obtient la variance. Donc si je récapitule, on a obtenu pour la variance. On remarque quelque chose d'intéressant, la variance augmente linéairement avec n. Dit autrement, les fluctuations relatives diminuent avec la taille du système. Plus précisément, les fluctuations relatives, c'est-à-dire l'écart type divisé par la moyenne, sont en 1 sur racine de n fois un coefficient d'ordre unité. Donc les fluctuations diminuent avec la taille du système et à l'échelle macroscopique, on ne les voit pas. Ces fluctuations existent pourtant très bien à l'échelle microscopique. À présent, on va s'intéresser à une approximation de la loi binomiale dans la limite de grands systèmes. Alors plus précisément, on va considérer donc un grand système tel que grand N est grand devant 1, mais on va également considérer que grand N fois petit p et grand N fois petit q sont aussi grands devant 1. La conséquence de ça, c'est que comme grand N fois petit p et grand N fois petit q représentent les moyennes de petit n et grand N moins petit n, on est capable de dire, puisque les fluctuations sont faibles dès que n est grand, on est capable de dire que petit n et grand n moins petit n sont également grands devant 1. Pour simplifier les calculs dans cette question-là, on va se restreindre à p égale q égale 1/2. Et donc évidemment, si on prend ces valeurs-là, grand np et grand nq sont grands devant 1 à partir du moment où grand n est grand devant 1. Comme les fluctuations de petit n et grand n moins petit n sont faibles, on va pouvoir les écrire sous la forme petit n est égal à sa moyenne fois 1 plus epsilon. Donc la moyenne, je rappelle ici, ça va être n sur 2, puisqu'on a pris p égale q égale 1/2. Et grand n moins petit n, ça va être égal à la moyenne fois 1 moins epsilon. Et comme on sait que les fluctuations sont en 1 sur racine de grand n, on est capable de dire que epsilon, c'est d'ordre 1 sur racine de grand n. Pour réaliser l'approximation de la loi binomiale, nous allons utiliser le développement limité du factoriel, qui est donné par la formule de Stirling. Donc on va commencer par prendre le logarithme de la loi binomiale. Et comme p et q valent 1/2, le terme p à la puissance n, q à la puissance grand n moins petit n devient 1/2 à la puissance grand n. Donc ici on a moins n log de 2. À présent on applique la formule de Stirling. La première ligne, à l'exception du n log de 2, correspond au logarithme de n factoriel, de grand n factoriel. La deuxième ligne correspond au logarithme de petit n factoriel. La troisième ligne correspond au logarithme de grand n moins petit n factoriel. On remarque que certains termes se compensent. Pour poursuivre, on va d'abord regrouper les termes qui sont en facteur de logarithme de n sur 2. Et on remarque immédiatement que tous ces termes s'annulent. Ensuite, on prend les termes qui font apparaître logarithme de 1 plus epsilon ou logarithme de 1 moins epsilon. Dans ces termes, on voit qu'on a des epsilon qui sont tous d'ordre 1 sur racine de n. Donc epsilon fois grand n est d'ordre racine de grand n, donc reste grand devant l'unité. Et dès lors, si on veut faire le développement limité proprement, on doit aller à l'ordre 2 en epsilon. Donc on est obligé de développer les logarithmes. En se limitant à l'ordre 2 en epsilon, on constate que tout ce terme se réduit à epsilon carré. Enfin, la dernière contribution est le troisième ordre dans la formule de Stirling, le logarithme de racine de 2 pi a. Donc si on les réunit tous ensemble, on obtient... Dans ce dernier terme apparaît un terme en epsilon carré. Lorsqu'on sépare le logarithme en somme de logarithmes, on va constater que cette contribution est négligeable devant l'unité, donc on peut la supprimer. Donc finalement, on a obtenu. Donc pour la probabilité Pn, donc cette probabilité Pn est en exponentielle de moins epsilon carré. C'est une loi de probabilité qui fait penser à une gaussienne. Si on réintroduit le petit n, sa moyenne et sa variance, on obtient... On trouve effectivement l'expression d'une loi gaussienne. Donc pour résumer, on a une approximation gaussienne de la loi binomiale sous quelques hypothèses qui sont grand N, grand NP et grand NQ, tous grands devant 1, de sorte qu'on peut appliquer la formule de Stirling. Alors, dans l'exercice, on a fait le calcul pour la situation où P et Q valent 1,5. Tant que ces conditions sont vérifiées, le cas général avec P et Q différent de 1,5 continue à vérifier l'approximation gaussienne. En revanche, si P et Q deviennent soit très proches de 0, soit très proches de 1, de telle manière à ce que l'une des deux dernières conditions n'est pas vérifiée, dans ce cas-là, la formule de Stirling ne peut pas être appliquée soit à petit n, soit à grand n moins petit n. Et à ce moment-là, on s'attend à ce qu'il y ait une déviation entre la loi binomiale et la loi gaussienne. Pour le traitement du cas général, l'exercice vous renvoie vers l'ouvrage de physique statistique de Bernard Duke qui est disponible à la bibliothèque. Donc la déviation entre la loi binomiale et la loi gaussienne, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même, tout simplement en traçant les deux lois pour différents choix de paramètres. Donc ici, vous avez un exemple. À gauche, une situation est grand n égale à 100, P et Q égale à 1,5. Donc, grand N égale à 100, ce n'est pas très grand, mais c'est suffisant pour qu'il y ait une bonne approximation de la loi binomiale avec la loi gaussienne. À présent, si je reprends toujours avec grand N égale 100 une situation très asymétrique, donc par exemple P égale à 0,02 et Q égale à 0,98, autrement dit, sur mes 100 tirages, il y en a environ que 2 qui sont dans l'état 1. Eh bien, 2 n'est pas grand devant 1, donc Stirling ne s'applique pas, et on s'attend à ce qu'il y ait une déviation entre les deux lois. Et c'est effectivement ce que l'on observe.